les jardinières.
Salut tout le monde et bienvenue dans les jardinières. Avant dernier jour du mois de mars, retour du beau temps, il nous faut des conseils pour que nos plantes passent le printemps sans souci. Et comme à notre habitude, je retrouve ma collègue du jardin pour m'accompagner jusqu'à 8h. Bonjour Sophie.
Bonjour Stéphanie, bonjour à vous tous qui nous écoutez déjà. Ce matin, nous sommes en bonne compagnie. Il n'y a pas que le soleil qui est parmi nous, mais lui aussi, il est là. Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuves. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Nous sommes le samedi 30 mars, comme nous l'avons dit, avril s'approche à grands pas. Et comme un dicton le dit, avril a 30 jours, et si 31 il avait, personne ne s'en plaindrait. 30 jours donc pour prendre soin de vos plantes, comme Olivier va vous le conseiller.
Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez le faire par différents moyens, soit par écrit, un petit SMS au 939 avec comme en tête avant votre message le mot jardin. Vous trouvez aussi le formulaire sur nos sites internet et sinon, eh bien, le moyen le plus direct, c'est le téléphone 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
Ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Les jardinières, c'est parti.
Les jardinières, Sophie et Stéphanie.
Et depuis la semaine passée, on a gardé des questions bien au chaud pour pouvoir vous les poser aujourd'hui, Olivier. Par exemple, cette question qui nous vient de Marie de Corneau. Elle nous dit qu'elle a un oiseau du paradis depuis plus de 10 ans. Mais par contre, il n'a jamais fleuri. Elle a tout essayé, le mettre en été dans le jardin, à la mi-ombre, l'hiver dans sa véranda avec une température entre 13 et 16 degrés. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à Marie pour faire fleurir son oiseau du paradis, Olivier ?
Alors, tout est à la bonne question. Parce qu'on parle de chaud, vous l'avez gardé au chaud la question, mais je pense que l'oiseau du paradis fait partie de ce groupe de plantes qui sont particuliers pour faire une floraison. C'est qu'il faut leur provoquer des chocs de température. Ça veut dire que s'il a une température constante l'été, l'automne, l'hiver, il va continuer de faire tout le temps du feuillage, il va pousser, il sera très joli, mais il ne fera pas de fleurs. On a une autre plante qui est aussi un peu comme ça, c'est le clivia, une plante d'intérieur qui est connue aussi. Mais l'oiseau du paradis, donc on parle bien de la même plante, c'est le bec de perroquet, cette magnifique fleur orange qui fleurit assez longtemps, même coupée, puis qu'après on peut ressortir les dernières fleurs manuellement, on peut ouvrir la fleur, parce que souvent il y a une...
Ah, manuellement ?
Oui, il y a une fleur, la couleur orange, donc qui est fleurie, elle vient une brune, et puis des fois vous enlevez ça, puis vous ouvrez un peu, puis vous ressortez à l'intérieur, il y a encore une fleur qui doit ressortir, des fois même deux. Donc vous pouvez ressortir ces fleurs à la main. Et pour les faire fleurir, justement, comme on disait, il faut... parce que ça pousse très bien. On est tous partis une fois ou l'autre dans un petit voyage. Les îles Canaries sont connues pour ça aussi. On peut acheter ça dans les aéroports, dans des petites plantes qui sont prévues pour les exports. Vous faites pousser ça, ça fera faire des plantes qui vont venir jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20 de haut, le feuillage, sans problème. Maintenant, si ça fait 10 ans qu'elle l'a et qu'elle ne l'a jamais divisée ou rempotée, ce serait peut-être une des premières choses à faire, la changer de pôle, lui remettre un nouveau terreau avec bien des vitamines, donc un engrais granulé qu'elle va incorporer dans son terreau. Et puis, ça va déjà peut-être lui faire un petit choc. Et puis, pendant cette saison d'été, ben, elle l'a laissée sans problème au soleil. Ça supporte très bien le soleil, pas besoin de la mettre à l'ombre. Mais elle l'a laissée sur sa terrasse, au chaud, normal, l'arroser. Et cet automne, quand elle la rentre, par contre, là, parce que ça gèle, hein, ça ne peut pas rester dehors, il faut la mettre vraiment dans un local froid. Il ne faut pas l'amener dans une véranda où il y a le soleil qui la chauffe. Il faut la mettre vraiment dans un garage devant une fenêtre, de nouveau, où il y a de la lumière.
Il faut qu'elle ait de la lumière.
Mais il faut qu'il fasse froid. Puis froid, jusqu'à 4-5 degrés, ça supporte sans problème. Même 4-5 sur un long terme de 3 semaines, 1 mois, décembre, jusqu'à janvier, il faut vraiment que la plante se repose. C'est ce qu'on appelle les temps de repos de la végétation, comme un arbre qui n'a plus de feuilles et puis qui gèle. Mais ça, c'est une plante d'intérieur, c'est pareil. Il faut qu'elle ait ce temps de repos pendant 2 mois minimum. Nous, on fait ça sur d'autres cultures, en horticulture, on appelle ça la vernalisation. Il faut vraiment que la plante doit passer par ce froid de 2 mois minimum jusqu'à fin janvier, même fin février. Et puis à ce moment-là, après, là, comme maintenant les jours reviennent beaux puis chauds, alors là, elle peut la ramener dans sa véranda, puis là, elle doit faire une explosion de fleurs. C'est vraiment juste une question de régulariser son cycle végétal, qu'on a des plantes d'intérieur, on va les garder à température aussi bien l'été que l'hiver les mêmes, et ça ne fleurit pas. Donc c'est la première chose, rempoter, la remettre en végétation, la faire pousser. Cet automne, la rentrée au froid, donc juste hors gel. Pendant tout l'hiver. Et puis comme maintenant, fin mars, la mettre dans un endroit, une véranda, vraiment bien chaud. Et puis là, ça va sortir des fleurs.
7h, 8h, les jardinières.
On a reçu une autre question, c'était la semaine passée par SMS. C'est Maddy qui nous a écrit pour savoir tout simplement quelle belle fleur d'intérieur vous lui conseilleriez, Olivier, d'acheter pour pouvoir décorer chez elle.
Alors, des belles fleurs, des belles plantes, il y en a beaucoup. Hein.
Oh, il y en a plein.
Je dirais qu'on va revenir un petit peu sur la question d'avant, parce que pour avoir des belles fleurs, des belles plantes d'intérieur avec des fleurs, eh bien, ce sera un petit peu toujours pareil. Si on voit les gens, le plus souvent, on va mettre des orchidées. Pourquoi ? Parce que c'est la seule fleur qui fleurit abondamment, longtemps. On arrive à la garder assez facilement. Avant qu'elle n'existe, qu'on la voie se commercialiser autant, on voyait souvent les anthuriums. C'était cette grande fleur rouge avec au milieu, il y a comme un petit bec jaune. On a aussi les fameuses spatifilum qui font ces belles fleurs blanches aussi en forme de mouchoir. Et puis
c'est joli.
Alors, c'est des fleurs qui sont un petit peu perdues au détriment des orchidées, parce que c'était des fleurs qui sont un petit peu plus compliquées à faire fleurir. Mais dans le temps, quand on avait des maisons où c'est qu'on avait encore les fenêtres, où c'est qu'il faisait un peu plus froid l'hiver que maintenant, eh bien, on arrivait à faire fleurir ces plantes justement par ces petites périodes de chaud et de froid qu'on avait entre l'été et l'hiver, qui n'avaient pas toujours la même température. Maintenant, dans les maisons modernes qu'on a tous, on a toujours une température qui est quasi constante. Donc, nos fleurs d'appartement fleurissent moins. Elles viennent en feuilles, on arrive à les développer feuillage sans problème. Mais la floraison, elle est moins forte à cause de ces écarts de température.
Il fait plus chaud aussi dans les maisons.
Il fait plus chaud et surtout, on n'a pas ces périodes de froid pour leur montrer quand c'est l'hiver pour faire des fleurs au printemps. Parce qu'une plante d'appartement, c'est une fleur sauvage dans son pays qui a eu un hiver et qu'au printemps fleurit. Après, on a un creux où c'est qu'il n'y aura pas de fleurs et ça revient pour la saison suivante. Mais si je devrais donner un conseil, l'anthurium, c'est une très belle fleur qui tient en fleurs quand on a des fleurs assez longtemps.
Voilà, donc l'anthurium pour vous, Maddy. Ou alors une belle orchidée. Hein,
c'est quand même belle orchidée, toujours, c'est toujours joli, avec beaucoup de couleurs.
L'incontournable.
L'incontournable, tout à fait. 7h20, hein, dans les jardinières, on va faire un petit break musical. On va retrouver Olivier Ribaud d'ici quelques minutes. On est ensemble jusqu'à 8h. Et puis Sophie, évidemment, tout le monde peut poser sa question. Hein.
Tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir un téléphone ou un ordinateur, généralement on a un des deux, 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute par téléphone, sinon un SMS au 939 ou alors le formulaire que vous trouvez sur nos sites internet.
Les jardinières.
Et on va prendre Jacqueline Desbreleux qui nous a appelé la semaine passée et qui a des canards rouges en pot qui ont des bulbes, trop de bulbes. Ils se sont multipliés et entassés dans le pot et prennent donc beaucoup trop de place. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour les séparer, mais surtout comment est-ce qu'elle peut faire pour faire reprendre sa végétation qui est un peu bloquée par ces bulbes ?
Alors, sans problème, elle peut les séparer. Donc, le canard rouge, ce sont ces belles grandes fleurs qu'on voit fleurir en été, dominant le milieu des massifs. Et c'est gardé très facilement, justement, en hiver, par son bulbe, son rhizome. Ça fait un grand amas de racines qui s'enchevêtrent. Donc, c'est normal. À cette saison, c'est maintenant qu'elle va sévir pour diviser ses bulbes. Donc, elle va je pense qu'elle les aura hivernées dans un cajot, dans une caisse, en cave ou réduit au sec. Et puis maintenant, le feuillage est tout sec, tout fripé, ce qui est normal. Donc elle va couper ses feuillages et puis on va diviser cet amas de racines en 2, 3, 4, 5 morceaux, qu'on ait quand même toujours un volume de la grandeur de, je dirais, un pot d'un litre de racines, même la moitié si elle veut. Mais après, elle va remettre ça en pot avec un nouveau terreau, de nouveau bien enrichi d'engrais granulés qu'elle va mettre dans son terreau. Et puis elle va rempoter ça, puis remettre de l'humidité. Et puis maintenant, les mettre à la lumière, soit le long d'une fenêtre à l'intérieur, soit dans une véranda, un jardin couvert ou une petite serre, si elle a ça. Et puis ben, les feuillages vont ressortir depuis ces bulbes. Quand elle les remet en terre, il faut que le bulbe soit à ras du terreau vers le haut. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop rebouché pour que justement les nouvelles pousses puissent ressortir. Ça, c'est pour les canas. Bien sûr, il y en a des rouges, on en voit aussi des jaunes, on en voit des oranges maintenant. Et puis, comme on disait un peu aux antennes, il y a le cana et le cala.
Voilà, ouais, vous m'aviez dit ça, c'est vrai que je ne savais pas.
Le cana, c'est donc ces fameuses grandes fleurs qu'on vient de parler. Mais le cala, ce sont les fleurs qui font des trombes. On en voit les plus grands, ce sont des blancs. Mmh. Et puis après, sinon, maintenant, on en trouve beaucoup dans le commerce, aussi des oranges, des roses, on achète ça en pot. Alors, ça va faire un autre bulbe. C'est aussi un petit peu dans la même famille que les tulipes, les jonquilles et toutes ces plantes qu'on va garder pendant l'hiver, de nouveau, comme on disait avant, dans un endroit très froid pour que ce bulbe s'arrête d'être en végétation. Et puis, ce fameux cas-là, on va pouvoir aussi les diviser, mais ça fait des bulbes ronds, plats, comme un grand œuf, mais plat. Et puis là, des fois, il vient des petits autour qu'on remet en pot, qu'on divise aussi, et puis qu'on remet en pot. Mais on va toujours repasser par, comme avant, toujours cette période qu'on les aura laissés sécher, mis à l'écart pendant l'hiver. Et puis on les remet en terreau maintenant, et puis bien les arroser, les remettre à la lumière. Et puis c'est là qu'ils vont refaire du feuillage. Le cana et le cala sont deux plantes qu'on peut travailler la même chose, mais qui sont différentes.
Les jardinières.
Et on entame la deuxième partie des jardinières, encore une petite demi-heure pour poser vos questions jardinage à Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuves, notre professionnel du jour. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
C'est la dernière fois du mois de mars que vous pouvez poser vos questions, soit en composant le 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute, soit en remplissant le formulaire sur nos sites, ou alors il reste le SMS. Pour rappel, si vous optez pour le SMS, il vous suffit d'indiquer le mot jardin au début de votre message, vous laissez un espace et puis vous tapez votre question et vous envoyez le tout au 939.
On a reçu une question d'Elisabeth de Basse-Cour qui nous a contacté pendant la semaine pour savoir s'il fallait faire une première tonte avant la scarification, Olivier.
Alors oui, tout à fait, il faut, pardon.
C'est mieux avec le micro.
Tout à fait, il faut tondre une fois avant de scarifier. Je voudrais juste rappeler les principes de la scarification. N'est pas fait le fait de scarifier, c'est pas fait pour arracher la mousse. Le fait de scarifier est fait pour enlever le feutre qui se trouve à l'intérieur du gazon. Donc le feutre, c'est ce vieux gazon sec qu'on a depuis l'année d'avant, depuis les périodes de sécheresse et d'été ou même d'hiver. Donc on va tondre une fois un peu plus court que d'habitude, justement, pour avoir un gazon qui ne soit pas trop haut. Puis après, on va passer les scarificateurs, qui a toutes ces petites lames verticales, qui vont arracher cette paille sèche qui se trouve au fond du gazon pour l'aérer. Quoi. On va ramasser au râteau, et après, on va remettre un deuxième coup de tondeuse pour ramasser tout ça comme il faut. Et puis après, à faire un apport d'engrais, un engrais combiné à longue durée sur les gazons pour le revitaliser sans problème. Alors, on utilise souvent un scarificateur pour arracher la mousse. On a des grands volumes. On se dit super, on a fait beaucoup de choses. Mais si on n'apporte pas un engrais, un anti-mousse et ce qu'il faut derrière, eh bien, la mousse va rester, va se remultiplier, puis vous en aurez toujours. Mais la base du scarificateur, c'est pour enlever le feutre, pour avoir un gazon bien aéré qui revienne beau vert pour la saison suivante.
Ouais, c'est vrai qu'on s'imagine tout le temps que c'est pour enlever cette mousse. Hein, qui est... ouais,
alors c'est pratique parce qu'on voit ce qu'on fait. C'est vrai que ça en enlève, surtout encore cette année où c'est qu'on a eu beaucoup de sécheresse et puis qu'on a de grandes zones où il n'y a plus que de la mousse. Et on a encore eu les hannetons qui sont venus ronger le gazon, surtout sous ces plaques de mousse. Alors tout ça part, c'est bien. Mais seulement, il faut penser qu'un gazon, il faudrait le nourrir. Donc, il y a apporté un peu plus d'éléments nutritifs pour que la mousse ne puisse pas prendre le dessus. Donc, c'est difficile de faire un travail radical, d'enlever complètement la mousse en une fois. Il faut faire un travail sur le long terme, sur du gazon, pour avoir toujours une belle végétation, donc un beau gazon, pour que la mousse ne vienne pas l'envahir. On a toujours ce phénomène, on nous pose souvent cette question. Scarifier, c'est une chose, ça l'enlève, mais après, il faut suivre derrière pour ne pas qu'elle revienne.
Merci Olivier Ribot, vous êtes avec nous encore pendant une petite vingtaine de minutes et Christophe Debienne nous a écrit « Je possède deux orpins, un en terre, l'autre en pot, et ceux-ci sont attaqués par un insecte ou une autre bestiole. Les feuilles sont mangées et ce ne sont pas des limaces. Qu'est-ce que ça peut être et qu'est-ce que je peux faire ?»
Alors, je vais déjà juste décrire le orpin, c'est cette plante grasse. Tous les orpins sont des plantes succulentes, donc comme un cactus, mais qui a les feuilles très épaisses, très grasses. Si on les casse, elles sont remplies d'eau. Alors, on peut en avoir des qui viennent assez haut, comme le Sedum telephium. Il vient jusqu'à 50-60 cm, il fait des belles feuilles. En hiver, il sèche, il repousse au printemps. Il y a aussi les orpins, donc les sédums qui font des couvre-sols. On commence d'en mettre dans les talus très arides. Ça, c'est une plante qui tient très bien au sec parce qu'elle se remplit d'eau et puis elle peut survivre à des conditions très arides. Il dit que ce n'est pas des limaces. Donc nous, quand on parle d'une limace, on voit la belle grande limace qui fait 4-5 cm grise, brune. Alors non, ce ne sont pas ces limaces-là. Moi, je verrais que ce seront des toutes petites limaces qui existent quand même, qui font jusqu'à 1 cm, pas plus, ou des tout petits escargots, parce qu'ils viennent se nourrir de ces plantes, parce qu'elles sont remplies d'eau, elles sont bien, bien succulentes. Donc, autres insectes, difficile à trouver comme ça sans voir les dégâts. Mais moi, je pense quand même que c'est une toute petite limace qui fait partie des limaces, mais qui n'est pas cette belle grande brune qui vient attaquer ça. Donc, il faut quand même, le plus simplement, c'est de regarder manuellement s'il a 2-3 insectes qui se promènent, parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, parce qu'ils vont se cacher la journée à l'ombre, sous les feuilles ou sous le... Essayer de chercher, c'est vraiment tout petit, c'est un peu gras, un peu... Et c'est, à mon avis, s'il en a une ou deux par pot, ça suffit pour y faire pas mal de dégâts. Sinon, l'autre possibilité, c'est de, assez simplement, ceux qui sont en pleine terre, c'est d'enterrer un fond de bouteille en pète et puis d'y mettre un peu de... que couper le fond de la bouteille, que vous ayez 4-5 cm, l'enterrer à ras du sol et puis mettre un peu de bière dedans. Ça va attirer les limaces, donc les toutes petites limaces. On appelait ça, c'est pas un terme technique, mais c'est des grumeaux, c'est des toutes fines. Et puis elles vont en descendre là-dedans, puis après elles pourront pas remonter, elles vont être un peu saoules et puis elles vont...
C'est ça. Finalement, la bière, c'est bien pour tout.
Exactement.
Hein, au fond de la bouteille et puis voilà. Ok, bon truc. Hein. Merci Olivier Ribot pour ces bons conseils. On a reçu un SMS de Michel qui nous écrit par rapport à sa pelouse qui est envahie de pâquerettes et de primes verts. Alors, elle trouve ça joli, c'est pas la question, mais en fait, c'est très envahissant et elle craint que ses plantes prennent le dessus sur le gazon. Elle racle la terre pour ressemer du gazon de garnissage, mais est-ce que c'est suffisant? Et qu'est-il possible de faire pour éradiquer cette invasion? C'est dommage, hein, c'est plutôt joli.
Alors, hein, c'est un peu la question. Il y en a beaucoup qui en ont pas, qui en aimeraient. Et les pâquerettes, surtout les petites primes verts qui fleurissent maintenant, ça fait des beaux tapis de couleurs. Alors c'est clair qu'une fois qu'il y en a, ça envahit pas mal. Si elle veut un petit peu ralentir cette invasion, sans passer par la méthode chimique, parce que ça c'est possible, mais c'est presque dommage, elle peut, quand la floraison commence d'être à la fin, tondre sa pelouse assez court, puis ça va ramasser une bonne partie des fleurs et des graines, pour qu'elle ne se remultiplie pas naturellement. C'est le seul moyen. Parce qu'après ressemer, bien sûr, elle peut ressemer du gazon pour reverdir sa pelouse. Ça va pousser. Faire des semis, on a parlé de scarification avant et des semis de gazon. N'oubliez pas que la nuit fait encore froid, que le sol est froid. On sort d'une période d'hiver. On est bien sûr tenté parce que les rayons de soleil sont là. Mais en plus du sol sec, et puis on est quand même à l'aube du 1er avril, ok, mais il faudrait pour faire des semis de gazon quand même encore attendre 15 jours, voire 3 semaines, surtout quand c'est des conditions comme ça, où c'est juste ressemer sur semis, ça va pousser, démarrer beaucoup plus facilement dans 3 semaines que de se dire « Ah, je le fais, comme ça c'est fait ». Puis après on dit « Ah, oh, ça ne marche pas, la graine ça ne va pas ». Il faut mettre toutes ces conditions de son côté. Donc, pour les amateurs et même nous, moi je repousse aussi, on attend encore 15 jours qu'il vienne une pluie, que le sol va revenir un peu plus chaud pour que faire des germinations plus régulières puis plus faciles. Attendre pour faire ses semis. Et puis normalement, si elle en a vraiment trop, après elle peut passer par faire un sélectif, mais c'est presque dommage parce que c'est tellement beau qu'au printemps quand ça fleurit.
Les jardinières.
Et on a en ligne Marcel de Basse-Cour qui a une question à vous poser concernant ces plants de vigne. Marcel, vous êtes toujours là ?
Oui.
Bonjour Marcel.
Bonjour. Oui. Alors, j'avais une question à poser. C'était pour des vignes que j'ai fait l'automne passé. J'ai pris des plantes, des plantes de vignes, là, des pousses, quoi, que j'ai coupées, et puis je les ai mis dans de la terre.
Oui.
Et maintenant, elles sont bien parties.
Oui.
J'aimerais savoir si je peux maintenant, quoi, quand il fera dans un mois, comme ça, les planter en pleine terre, dehors, ou bien je dois les garder dans des pots encore.
Non, alors justement, vous pouvez les planter en pleine terre. Vous n'êtes même pas obligé d'attendre encore un mois. Maintenant, le sol est bon, la terre est sèche. Si vous avez du temps, vous pouvez le faire dès maintenant. Le plus tôt possible sera fait avant que vos vignes ne débourrent. C'est meilleur
de les planter. Ah ben, il y a plein de feuilles, il y a déjà.
Déjà, parce que vous les aviez dedans, alors, c'est pour ça.
Oui, dedans.
Oui. Alors là, vous faites attention. Alors là, il faut les garder encore un petit peu. Maintenant, vous les mettez sous le couvert ou le long de la maison, c'est qu'il ne va pas geler. Et puis, les planter. Alors, vu qu'elles sont déjà rentrées en végétation, vous avez le feuillage qui est sorti. Là, il faut attendre encore, en tout cas, 15 jours, 3 semaines pour les planter. Alors, oui, ça c'est
oui,
sûr.
Oui, parce qu'ils ont déjà 6-7 feuilles. Hein.
Ah oui, alors là, ils sont déjà partis en végétation. Donc, si vous allez les mettre dehors puis qu'ils gèlent dessus, là, ce n'est pas bon. Alors, il faut les garder le plus longtemps possible, jusqu'à fin avril, dans vos pots. Puis, vous allez les planter à ce moment-là. Sans défaire la motte, vous allez les replanter. Puis, ils vont pousser dans votre jardin pour cet été. Sans problème.
D'accord.
Vous aurez...
Une deuxième question.
Oui.
J'ai deux hibiscus. C'est des hibiscus d'intérieur pour l'hiver, je les rentre.
Ok.
J'en ai un rouge et puis un jaune.
Oui.
Le rouge est déjà tout en bouton.
Et puis pas le jaune.
Non.
Oui. Alors ça, c'est des différences.
Il n'a encore pas fait de feuilles.
Oui.
Mais il a des pointes qui sont bien vertes.
Oui, alors ça c'est les différences entre les cultivars, donc entre les variétés rouge, jaune, même des fois entre deux jaunes ou deux rouges, ça peut arriver. Et puis quand même l'hibiscus rouge, c'était à l'origine, c'est quand même le plus utilisé, c'est un peu la base si vous voulez, c'est celui qui est le plus solide et puis qui va rester en végétation le plus facilement. Maintenant bien sûr dans le commerce on trouve des jaunes, des oranges, on trouve des marbrés, on trouve un petit peu des couleurs un peu toutes nouvelles, mais au niveau feuillage et plantes ils sont un peu plus délicats, donc il faut être un peu plus patient. Mais si vous avez déjà les bourgeons du bout qu'on voit qui sont vertes, il va faire des feuilles, il faut être patient, il va faire des feuilles, mais ils sont plus retardés que les rouges. Le rouge c'est le premier qu'on voit en feuilles et en fleurs, c'est normal.
D'accord. Alors, merci beaucoup.
Merci d'avoir
été. Merci à vous, monsieur.
Merci à vous. Bonne journée, bon week-end.
Bonne.
Eh bien, voilà. Merci beaucoup d'avoir appelé. Donc, 0-900-70-20-20, on arrive bientôt en fin d'émission. Mais on a reçu tout de même une question de Béatrice qui nous pose la question suivante. Est-ce que je peux ressortir mes palmiers tessinois? Je les ai mis à la cave pour l'hiver et j'ai très envie de les revoir à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller, Olivier, à Béatrice?
C'est un petit peu le même problème que monsieur. Si sa cave est chauffée, et puis, parce qu'on a des caves maintenant qui sont très, très froides, où on peut trouver dans des bâtiments modernes des caves où c'est que ces palmiers, ils auraient peut-être déjà fait quelques nouvelles feuilles. Ça, c'est à contrôler sur son palmier. Si le cœur au milieu en haut, il est sorti des jeunes feuilles, il faut faire attention. Si elle les sort, elles vont prendre froid, elles vont geler. Donc, ce serait de les mettre encore progressivement de nouveau sous un couvert, un garage ou un endroit où ils ne gèlent pas. Mais si son palmier a été hiverné dans une cave froide ou un entrepôt froid, comme nous, on en a quelques-uns, eh bien, on les a déjà mis dehors depuis 15 jours. Parce qu'ils n'ont pas poussé, on ne les a pas lancés en végétation. S'ils seraient restés à l'intérieur et puis que maintenant, il y aurait des nouvelles feuilles qui seraient sorties avec ces coups de chaud, alors là, on n'ose pas les sortir parce que s'il vient froid, eh bien, elles vont brûler. Mais ça, c'est à s'adapter selon le mode d'hivernage qu'elle a eu. Si c'est une cave très froide et puis qu'ils n'ont pas bougé, alors elle peut les amener progressivement sous le couvert à voiture, les arroser, puis les garder là encore pendant un mois et demi, jusqu'à ce qu'on est sûr qu'il ne vient plus des grands froids. Voilà.
Merci Olivier Ribaud. On va terminer avec notre question habituelle. Nous sommes le 30 mars, donc bientôt avril. Qu'est-ce qu'on peut faire au jardin en cette période de l'année ?
Bien, c'est un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il faut vraiment continuer de faire des préparations, pas vouloir être trop pressé, de vouloir planter, de vouloir semer, des gazons, des choses comme ça, c'est vraiment tôt encore. Ce matin à 6 heures, tous les champs sont blancs, donc c'est quand même gelé. Il faut être un peu patient, mais tout ce qui est nettoyage, on peut finir les tailles, hein, c'est pas fini, les tailles, des tailles d'ornements, des arbustes, des arbres, c'est encore faisable, mais il faudrait avancer parce que c'est les derniers 15 jours. Et puis après, ben, préparer son jardin, le brasser, amener du compost pour ceux qui en ont. Et puis après, commencer de planter les oignons, les petits légumes. On peut quelques choux avancés, mais il y a encore 15 jours, et puis après, on est bon.
Ouais, parfait. En tout cas, ça fait plaisir hein, déjà de pouvoir sortir et puis de commencer à se mettre au jardin.
Voilà, oui.
8 heures s'affichent bientôt sur nos horloges. Attention, hein, attention, n'oubliez pas de changer d'heure. Hein, ce week-end, une heure par contre pour nous qui marque la fin de cette session jardinage. Avec le beau temps qui est prévu ce week-end, pas d'excuses pour ne pas sortir et appliquer les conseils d'Olivier. Merci à Olivier Ribaud d'avoir été présent avec nous ce matin.
Ben, c'était un plaisir, merci à vous, à bientôt.
Belle journée.
Les jardinières reviennent comme toujours samedi prochain et si vous avez des questions qui germent grâce au beau soleil dans votre esprit durant la semaine, bien n'hésitez pas à nous les poser par SMS au 939 ou alors grâce au formulaire. Elles seront bien sûr traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Excellent week-end.
7h, 8h, les jardinières.